Bonsoir à tous et à toutes. Bienvenue un peu dans cette nouvelle émission radio sur les squats. En fait, un peu comme le nom l'indique, squat, on a décidé d'appeler squat entre les mythes et réalités, parce que l'objectif, c'est de faire connaître un peu les milieux de squat et les faire raconter à qui les connaît mieux que tous, donc ses habitants, donc les personnes qui forment ces milieux. Et l'objectif, en fait, sera donc au cours de cette émission de déconstruire en fait les préjugés autour de ces milieux, apprendre à les connaître, à se familiariser avec ça. Et en l'occurrence, déconstruire un peu l'idée que les squats, c'est ces milieux un peu cachés, criminels. J'espère découvrir toute une autre facette plus différente, tout simplement. Moi, je m'appelle Mathéo, je me présente tout d'abord. Je viens de Lesbel, Picole. Donc, on collabore avec Radio Panique pour la construction de cette émission. Normalement, je suis accompagné de ma chère amie Chevik. Pour raison familiale, elle ne sera pas ici aujourd'hui, mais je la pense et je l'envoie un câlin très fort dans ce moment un peu compliqué. Et aujourd'hui, on a un chouette petit plateau radio. Je vous laisse un peu se présenter eux-mêmes. Vous pouvez prendre la parole et vous se présenter tranquillement.
Moi, c'est Jack. J'ai une double casquette dans cette émission parce que j'ai vécu en squat pendant plusieurs années dans le sud de la France. Expérience savoir chaud, on va dire. Ça fait quelques années que je m'intéresse au squat d'un point de vue théorique et scientifique. J'ai démarré une recherche il y a quelques années sur l'organisation de la culture en squat, en fait. Pas juste culture des squats, mais culture en squat. Et notamment, enfin, plus précisément, les structures d'organisation, en fait, les modèles d'organisation d'événements culturels, de contenu culturel, de qu'est-ce qui s'y fait, comment ça s'organise, etc. Comment ça s'autogestionne, en fait. Voilà, du coup, ma casquette est double. Approche vécue et approche étudiée, on va dire.
Moi je m'appelle Manu Lafourmi. Je suis une nouvelle clète, donc je suis membre de la clé depuis maintenant 6 ou 7 mois, je pense. Je suis une ancienne communa. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression que les choses se sont faites assez naturellement. J'ai découvert le squat par Comuna, un peu par hasard d'ailleurs. J'ai répondu, j'ai envoyé un mail de motivation à qu'est-ce que je pouvais apporter. J'ai été sélectionnée. Wouhou! Et ça a duré 10 ans, cette histoire, une belle histoire d'amour. Et puis voilà, puis bah. Mais je pense que j'ai changé, je pense que peut-être Comuna aussi a changé. Enfin, en tout cas, voilà, il y a un moment où j'avais besoin en fait de bouger et il s'est présenté une opportunité à la clé. Je suis devenue clète. Et moi, je m'intéresse énormément déjà à la place de l'art en fait dans le squat, dans l'occupation. Est-ce qu'on fait de l'art pour s'occuper? Est-ce que ça va plus loin l'art? Est-ce qu'il y a vraiment une utilité publique? Est-ce qu'il y a vraiment un besoin de créer? Et aussi, je m'intéresse aussi à la notion du besoin et la notion, est-ce que on est en squat par besoin ou par envie? Parce que je trouve qu'en fait, c'est quelque chose qui est vraiment foncièrement différent. Alors, je mets pas l'un et l'autre en confrontation, parce que pour moi, les deux, en fait, sont valables. Mais voilà, j'ai un peu cette réflexion-là.
Alors moi c'est RDM et je travaille pour une association d'aide au logement. Alors moi j'ai absolument aucune expérience en squat, donc je pense que je parlerai plus des situations qui mènent au squat, c'est-à-dire comment on a des logements vides, qu'est-ce qu'on peut faire, pourquoi est-ce qu'ils sont vides, qu'est-ce qu'on devrait y faire.
Moi, je m'appelle Dominica. Je suis une autre clète, du coup. J'habite avec Manu. J'habite à la clé depuis environ 3 ans et demi. C'est le seul squat dans lequel j'ai vécu. Je suis étudiante, passionnée par les animaux et les dynamiques généralement qui se passent dans la nature, entre humains et l'environnement globalement.
Merci déjà d'être ici. Je vous remercie de vos partages, de vos connaissances, de votre expérience et de votre vie. Et Je vous présente en fait un peu la structure de cette émission afin que même les personnes qui nous écoutent de chez soi ou de la voiture ou peu importe, ils savent un peu ils peuvent se repérer. Aujourd'hui, l'objectif c'est de faire des réactions à un micro-trottoir qu'on a fait avec Cheville. Donc notre objectif c'est de récolter les témoignages des personnes des personnes lambda qui sont pas issues du milieu du squat, donc voir quelles sont les connaissances qu'on a sur ces milieux, quels sont les préjugés, donc qu'est-ce qu'on s'imagine aussi des squats. Et donc je vais vous demander les langues de l'émission, donc en fait tout simplement d'écouter ces témoignages et de réagir, et donc de là et peut-être confirmer certaines choses qui seront dites ou les déconstruire, voilà. Et on va faire une petite pause musicale avant de nous lancer dans la vie du sujet. Et je remercie alors aussi le groupe Banal, dont Balthazar de la Clé aussi fait partie, qui nous accompagnera aujourd'hui avec leur musique. Et on se revoit après la pause musicale.
Son visage, chaque ride est une année passée au quartier. Elle s'appelle Christine. Ce qu'elle a vécu ici, il faudrait bien plus d'un livre pour le dire. Mais on va essayer, ouais. Depuis la mort de son mari, elle vit avec son ami, le chien bandit. C'est elle qui nous avait dit ce qu'il y avait derrière la grille. Toute une école dans le passé, et maintenant c'est inhabité. Alors nous on est arrivés, plein de valises et plein d'idées. C'était il y a 2 ans et demi, et on n'est jamais reparti. Quand j'appuie sur la sonnette, Bandy me répond. Christine lui dit arrête et marche vers le paillasson. Entre deux, ça m'a tout l'air d'une affaire de passion. Une seconde, ça bat de l'aile, ça repart à fond les ballons. La musique, le potager, la cuisine et tout ce qu'on fait pour amuser notre quartier. Mais elle me dit que c'est pas pour elle, qu'elle est déjà bien trop âgée. Et moi comme je veux pas la saouler, j'hésite à insister. Est-ce qu'un jour elle passera de l'autre côté du portail? J'aimerais tellement lui servir un petit café. Quand j'appuie sur la sonnette, Bandy me répond. Christine lui dit arrête et marche vers le paillasson. Entre deux, ça m'a tout l'air d'une affaire de passion. Une seconde, ça bat de l'aile, ça repart à fond les ballons. Tissé d'une laine qu'on appellera l'amitié.
Et c'est elle que j'ai croisée alors que j'allais me balader entre la Belgique et la France, voir la famille et les amis d'enfance. Elle baladait son chien bandit. Quand elle m'a vu, elle a souri et elle a repris son voyage en direction de l'épicerie.
Après cette petite pause musicale, je pense qu'on peut se lancer dans le vif du sujet. Je vais vous lancer donc les enregistrements du micro-trottoir. Je vous demande juste, vous pouvez les écouter tranquillement et voilà, on pourrait en discuter juste après.
Donc ce que je sais par rapport aux squatteurs, c'est que donc, ce sont des personnes qui s'invitent chez des gens, donc dans des lieux inhabités. Et ils refusent de sortir de l'endroit. Et, donc parfois, ça crée des conflits entre le propriétaire et les squatteurs qui viennent habiter dans ces lieux-là. Moi, ce que j'en pense, c'est un peu le dicton flamand, quoi. Dans le sens où ça ne se fait pas de venir habiter chez les gens. Quoi d'autre ? Ouais, sans payer de loyer, venir s'incruster chez des gens, même si c'est inhabité, voilà quoi, ça se fait pas.
Bah, j'en sais pas grand chose, mais je trouve ça dommage que ça existe, mais pour moi, faut pas les supprimer, et parce que c'est un endroit où on accueille les gens et où il n'y a pas d'autre solution peut-être pour l'instant. Donc, c'est pas pour ça qu'il faut pas en trouver ou en rechercher, mais le fait de les supprimer, ça efface le problème ou ça le cache, et ce qui n'est pas une bonne solution.
Et quand vous dites que c'est dommage qu'il y en ait, qu'est-ce que ça sous-entend ?
Ça sous-entend qu'il y a des gens qui n'ont pas des conditions de logement décentes. Et c'est ça qui est dommage, c'est qu'il y a des gens dans la pauvreté qu'on ne sait pas encore aider totalement.
Qu'est-ce que squat m'évoque ? Bah, je dirais que c'est des personnes qui n'ont pas de logement, qui se logent dans des endroits qui ne sont plus habités par d'autres personnes. Et donc c'est généralement, je sais pas, c'est parfois des endroits qui sont plus en très bon état, des endroits un peu insalubres. Et puis je sais pas si c'est sur une longue durée ou pas un squat, mais je dirais que c'est plus, je pense que c'est plus un truc à court terme, le temps de trouver quelque chose d'autre ou juste pour rester dans un endroit en attendant quoi, de trouver une situation. Voilà.
En France, vu que je viens de France, avec le squat, souvent quand on désigne squat, c'est des logements qui sont insalubres. Et souvent, voilà, avec des problèmes de maladies qui peuvent être transmises par les animaux, etc. Des problèmes de voisinage, etc. Après, c'est une conséquence, je pense que c'est pareil à Bruxelles, mais des prix du logement qui sont de plus en plus hauts et du manque de tout ce qui est logements sociaux, etc., de manière alternative de loger des gens qui n'ont pas les moyens de se payer un logement décent. Voilà. Est-ce que c'est peut-être un manque de moyens pour les États qui ne mettent pas assez d'argent pour financer ce genre de structure ? Ou ça peut être aussi un manque de place, mais bon, on construit de plus en plus, donc normalement, ça ne devrait pas être un souci.
Qu'est-ce que je pense des squats ? J'ai squatté beaucoup ici en Belgique, le plus à Mons, j'ai fait quelques maisons. Bon, on n'a jamais eu vraiment de problème, mis à part l'électricité et l'isolation, mais je trouve ça juste qu'on puisse laisser des gens squatter dans des maisons qu'on va laisser à l'abandon. Je trouverais peut-être ça bien, parce que des logements ici pour l'instant, c'est encore plus difficile à trouver. Moi ici, ça fait des mois, je cherche un logement stable. J'en ai eu un qui n'était pas nécessairement légal, niveau adresse et tout ça, donc j'ai pas pu le garder. Et ici, squatter, ça m'aide beaucoup parce que sinon je dormirais dehors et j'avoue que je me sens pas en sécurité ici à Bruxelles comme dans des autres villes, quelles qu'elles soient en fait. Ouais. Bon goût.
Je suis surpris qu'il y ait des squatteurs à Bruxelles.
D'accord, pourquoi ?
J'en vois pas dans les rues, donc ils sont bien cachés alors.
Pourquoi un squat ?
C'est des gens qui profitent d'une maison qui n'est pas à eux.
Ok. Et dans quelles conditions ça arrive?
Ben, les gens qui n'ont pas les moyens de vivre ou quoi que ce soit, donc qui profitent de forcer une porte ou quoi que ce soit pour pouvoir vivre ou survivre même.
Ok, et vous en pensez quoi?
C'est pas forcément bien pour les propriétaires, déjà, pour une chose. On achète un bien, c'est pour y vivre ou le louer ou quoi que ce soit. Donc les gens qui viennent profiter de votre logement, indépendant de votre volonté, abusent de la situation et puis peut-être même jusqu'à dégrader. Et donc là, après, vous retrouvez, quand vous pouvez le récupérer, ça devient catastrophe quand vous ouvrez la porte. Enfin, c'est ce que je pense.
Juste une petite question. Vous avez dit que vous n'imaginez pas qu'il y a des squats à Bruxelles parce que vous ne voyez pas des gens comme ça dans la rue. Comment vous identifiez donc des squatteurs ?
Là, c'est une bonne question. Je pense que les squatteurs sont des gens, des marginaux en général. Et donc, ils vivent à l'écart de la société. Donc, physiquement, je ne sais pas. Oui, effectivement, c'est comment reconnaître un squatteur dans la rue ? Incapable de vous dire. Je pense que c'est des gens comme vous et moi.
Le squat a souvent une image péjorative. Hein. C'est l'image la première qu'on voit des squats. Mais in fine, je pense que si les gens squattent, c'est parce qu'ils n'ont nulle part ailleurs où dormir ou se protéger. Et la solution, c'est qu'il faut trouver un endroit pour tout le monde pour pouvoir se loger sans squatter du coup des bâtiments ou les maisons de certaines personnes. Voilà, moi c'est ce que je pense, sincèrement.
Vous pouvez juste expliquer un peu qu'est-ce que là vous entendez pas?
On dit squat, c'est souvent, alors c'est ou des SDF ou des drogués ou des gens qui viennent de manière agressive occuper un endroit, alors qu'il y a des endroits qui sont vides, qui sont occupés par des personnes qui peuvent aussi travailler mais qui n'ont pas les moyens de se loger, qui créent un environnement plutôt positif dans ces endroits-là, mais effectivement ils sont en illégalité puisque ça ne leur appartient pas. Le squat est en général illégal puisque c'est on s'approprie l'endroit de quelqu'un d'autre, un endroit qui est vide ou qui n'est pas occupé. Donc voilà, il faut trouver une solution pour les deux. Mais les personnes qui ont des enfants, c'est encore compliqué. C'est encore une autre problématique. Donc voilà, je ne sais pas comment on fait. Il faut qu'on travaille tous ensemble alors.
J'ai l'exemple pour de Lille. Par exemple, pour qu'il y ait moins de squats, il y a des associations qui prennent en charge des appartements thérapeutiques. Donc ce que je connais, c'est des personnes qui ont eu un ancien passé toxicomane et on les remet, ils ont à disposition un appartement pris en charge, loyer, électricité, suivi bien évidemment par un éducateur spécialisé. On leur donne leur chance pendant un an pour se remettre à flot, pour pouvoir se remettre à jour les papiers et rencontrer des entreprises, enfin...
Et c'est accessible facilement?
Oui. À partir du moment qu'ils ont 18 ans. Voilà. Et qui, toute nationalité, ils peuvent être pris en charge, il n'y a aucun souci.
Ils doivent avoir des papiers?
Non, parce qu'on doit on peut les aider justement. Il y en a qui ont perdu leurs papiers ou été volés. Donc il y a un travail justement avec les éducateurs spécialisés qui vont auprès des administrations pour refaire leurs papiers. C'est ce qui est plus important.
Mais ceux qui n'en ont pas?
Alors après, on a le service insertion sociale. Donc c'est, oui, alors il faut savoir de quel pays ils viennent. Ils ne veulent pas forcément le dire. Souvent, ils viennent de Roumanie, des pays Balkans. Et bon, c'est un peu plus long. C'est un peu plus difficile de les réinsérer et de connaître un peu leur passé. Oui, on a obligation de connaître un peu leur passé pour pouvoir faire des papiers. Mais c'est pas, ils ne jouent pas toujours le jeu.
Alors, ce que j'en sais, pas grand-chose. J'ai eu l'expérience d'aller voir... Il y a un squat qui est organisé rue Royale dans un immeuble de la région de Wallonie qui était désaffecté. Ils avaient organisé ça de manière assez chouette. Il y avait des appartements qui étaient bien répartis. Il y avait des activités au rez-de-chaussée. Et ils avaient, un contrat d'occupation précaire. Finalement, ils se sont mis d'accord avec la région qui avait besoin des bâtiments. Donc, ils sont partis ailleurs. Mais ce qui m'étonne, c'est qu'à Bruxelles, il y a énormément de bâtiments vides, notamment pour des bureaux, ce qui est complètement scandaleux quand on voit l'occupation. Donc, quand on voit les prix qui augmentent, les salaires qui stagnent, il y a un moment, faut pas s'étonner que les logements soient squattés. Voilà. Donc après, je sais pas la législation, parce que ça, c'est des squats qui étaient encore organisés avec des gens qui étaient en communauté, qui avaient un projet. C'était pas des squats d'individus qui squattent dans un appartement qui est occupé, qu'on peut plus mettre dehors, et les propriétaires se retrouvent sans la possibilité de rentrer dans les logements, ce qui, ça, à mon sens, n'est pas normal non plus. Et j'ai entendu qu'en France, c'était encore pire, que concrètement, si quelqu'un venait chez vous, il fallait quasiment faire la loi soi-même, parce que sinon la justice, en fait, vous aidait pas, et les gens pouvaient rester dans la maison pendant 2 ans. Donc il y a un équilibre qui m'a l'air encore à trouver.
J'ai une petite information donc pour par l'occurrence pour Manuel Dominica. Selon les messieurs dont je me souviens plus son nom, vous faites partie des personnes des marginaux de Bruxelles. Et voilà, ça c'est juste donc des extraits des micro-trottoirs qu'on a fait. Et il y en a d'autres qui, pour raison de temps, je ne peux pas passer à la radio. Mais juste, je fais un peu un résumé donc de ce qu'on a beaucoup entendu. Les thèmes qui reviennent souvent, qui sont déjà sortis dans cet enregistrement, mais qu'on a aussi écouté nous avec Chevy dans la rue, finalement, les squats, c'est vu comme un milieu plutôt marginal, où il y a finalement des personnes qui se trouvent dans des squats principalement pour des raisons économiques, parce qu'elles n'ont pas les moyens pour se loger, ou parce qu'elles se trouvent dans une situation d'être des drogués. Et il y a beaucoup de personnes donc, qui ont mis en lumière aussi le fait qu'à Bruxelles, il y a beaucoup de bâtiments vides. Et donc une personne parle même de tous les bâtiments qui sont utilisés pour faire des bureaux, et qu'il trouvait ça affreux. Surtout maintenant, il parle donc de la situation actuelle, dans laquelle donc tous ces bureaux restent vides. Et des personnes s'interrogeaient donc sur la place que l'État peut avoir. L'État peut et devrait avoir à ce niveau-là. Donc, qu'est-ce que l'État pourrait faire éventuellement pour réquisitionner donc les bâtiments vides, pour les donner donc à des personnes, à les squatteurs dans ces cas-ci, qui sont donc en condition de logement précaire. Donc voilà, ça c'est juste un fait pour vous résumer un peu ce qu'on a entendu, ce que nous, moi, je suis bien entendu. Je vous laisse alors la parole si vous voulez un peu réagir. Je ne sais pas qui de vous commencez. Allez-y.
Alors, moi, je veux bien commencer parce que, en fait, l'État belge, en fait, a fait quelque chose il y a quelques années. Mmh. C'est qu'en fait, il a mis en place une taxe d'inoccupation qui doit être payée par les propriétaires s'ils ont des biens qui sont vides, et qu'en fait, pour éviter la spéculation, en fait, pour éviter qu'il y ait des bâtiments qui soient vides et qu'on attende qu'ils montent, et puis qu'à ce moment-là, comme ça, on peut les revendre, on se fait plein de sous. Après, la problématique... Moi, pour avoir étudié ce truc-là, parce que notamment, par exemple, avec Comuna, on était très branchés là-dessus. Et donc, c'était vraiment pour nous un point en fait, qu'on mettait en avant par rapport au fait de dire si vous signez une convention avec nous, si le propriétaire signe une convention avec nous, vous ne paierez pas cette taxe d'inoccupation. Le problème qui se pose, c'est qu'en fait, on en revient toujours au même point. C'est qu'en fait, le type de personne qui va être piégée et qui, du coup, va se retrouver vraiment avec la corde au cou par rapport à ça, c'est la famille ou alors c'est la maison de famille qui, en fait, y a des histoires de famille et de partage. Et donc, c'est des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent, qui, en fait, peut-être n'ont pas le choix, en fait, et que le bâtiment, pour l'instant, ils ne savent pas quoi en faire. Alors que, en fait, les bureaux, comme on dit, les bureaux qui sont inoccupés, les immeubles et tout, c'est tellement, en fait, ça appartient à des choses qui sont tellement grosses et qui ont tellement d'argent qu'en fait, la taxe d'occupation, en fait, c'est une petite miette par rapport, en fait, à tout ce qu'ils gagnent. Et donc, en fait, ils n'en ont rien à faire, ou alors ils vont la payer, mais en fait, ça ne va même pas leur faire un petit accro, en fait, dans leur porte-monnaie. Et en fait, le problème, c'est ça, c'est qu'on en revient toujours, c'est que c'est les particuliers qui, en fait, eux payent, parce qu'en fait, eux, quand ils doivent payer la taxe d'occupation, eux, ça les plombe, eux, ils se retrouvent endettés, ça fait plein de problèmes. Et donc, c'est pour ça que cette histoire de taxe d'occupation, l'État a essayé de faire quelque chose, mais malheureusement, je ne sais pas. Et bon, c'est encore en test, je pense. Faudrait voir, peut-être pour essayer de trouver un réajustement, parce que malheureusement, Mais ils ont essayé quand même.
Ce qui est très, très, très récent, je pense que tu es entré dans la matière par le bon bout. En fait, dans les témoignages, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a plein de notions qui interviennent et qui sont intéressantes à clarifier. Mais la première, en fait, le monsieur qui dit, en fait, les squatteurs, c'est des gens qui s'invitent chez les gens. Alors, il faut distinguer deux choses, le domicile et la propriété. Donc, en fait, les squatteurs, généralement, n'interviennent pas chez des gens parce qu'on ne peut pas intervenir chez des gens. Et peu importe que l'occupant soit un locataire ou un propriétaire, on appelle ça une violation de domicile. Donc, on ne va pas aller violer le domicile de quelqu'un. Même la police ne peut pas faire ça sans mandat. Donc ça, c'est déjà une chose. On ne va pas chez les gens. Après, ce qui est intéressant à clarifier comme notion, c'est on a entendu beaucoup aussi, c'est quand même scandaleux qu'on aille profiter du bien de quelqu'un. Et là, je pense que ce qui est intéressant à penser, c'est que le droit de propriété, à l'origine, c'est quelque chose qui est assez fondamental dans notre droit, mais qui a été instauré en grande partie pour protéger quand même les gens contre l'arbitraire de l'État. Parce qu'il y a longtemps, les États n'étaient pas forcément démocratiques. Et donc, le seigneur ou le dirigeant s'arroge des droits ou, en fait, a la propriété du sol. Et donc, ce qui est intéressant dans le droit de propriété, c'est éviter ces arbitraires-là. Maintenant, il y a un autre droit qui est le droit au logement. Et ce qui est intéressant, c'est de voir dans quelle mesure on peut limiter le droit à la propriété pour défendre d'autres droits. Et en fait, tout le fondement du squat ou du logement inoccupé, des taxes, de tout ce qu'on peut mettre en œuvre, en fait, c'est ça. C'est des équilibres entre droit de propriété et droit au logement. Et voilà, ce qui est utile de rappeler pour ne pas être trop long non plus, c'est que le droit de propriété, quand on est propriétaire de quelque chose, ça ouvre des droits, mais ça ouvre aussi des devoirs, notamment par rapport à la société. En fait, un logement vide ou un bien vide, c'est quelque chose qui a un coût pour la collectivité. Ça occasionne des nuisances, ça occasionne toute une série de problèmes, de sécurité, de salubrité publique. Voilà, il y a des choses qui peuvent s'effondrer sur la voirie. Et alors, il y a le droit au logement. C'est-à-dire que quand on ne trouve pas de logement, il est normal que l'État puisse imposer certaines règles en termes d'occupation et de jouissance du bien par son propriétaire ou de l'usufruit, c'est-à-dire de le louer. Mais donc un logement vide, c'est déjà un logement où le propriétaire, en fait, par rapport à la loi, ici en l'occurrence à Bruxelles, par rapport aux ordonnances, au code du logement, etc., il est déjà en défaut. Donc il y a des règles sur le fait de ne pas pouvoir laisser un logement vide. Donc voilà, je pense que c'est quand même utile de rappeler tout ça et de se dire que moralement aussi, il y a quand même un équilibre à trouver entre le droit du propriétaire de disposer de son bien, mais quand il ne le fait pas, de voir ce que la société, l'État et les personnes qui sont dans le besoin peuvent en faire.
Puis moi je voudrais juste rajouter un petit truc, c'est que, une maison qui est vide, c'est une maison qui meurt, en fait, aussi. Je veux dire, les squatteurs, quand ils viennent, en fait, occuper un bâtiment, le fait qu'ils chauffent le bâtiment, le fait qu'ils l'entretiennent, le fait qu'ils en prennent soin... Alors, il ne faut pas faire de généralité, parce que tous les squatteurs ne font pas ça, mais quand même, je trouve qu'il y a quand même une certaine majorité de gens, en fait, qui prennent soin du lieu où, en fait, où ils vivent, parce que ils ont envie de continuer à vivre là. Et donc, par rapport au fait, par exemple, qu'à Bruxelles, on a beaucoup de problèmes d'humidité et qu'il y a beaucoup, en fait, un bâtiment en fait, qui est vide et qui n'est pas chauffé, en fait, c'est un bâtiment qui meurt. Et donc, le fait qu'il y ait des gens qui arrivent dedans, en fait, eux, ils ramènent de la vie dedans et ils font revivre le bâtiment, vraiment, foncièrement. Et donc, ça, c'est quand même un truc à prendre en compte. C'est un truc qui est important. Et même, en fait, pour les propriétaires, par exemple, une maison de famille, comme je disais tout à l'heure, si, en fait, on met des gens dedans et que les gens, ils chauffent cette baraque, et en fait, cette maison, elle continue à vivre et elle sera beaucoup plus saine que si on la laisse à l'abandon et qu'elle moisit, en fait, sur pied, quoi.
Et moi, j'ai une question. Et je ne sais pas si qui veut répondre en fonction de votre expertise et expérience. Et répondre, en fait, un peu à un des intervenants qui disait que l'État devrait prendre donc en charge tous ces bâtiments vides. C'est pour savoir si... l'État belge ou la région, je ne sais pas donc à quel niveau. Donc s'il y a des mesures qui sont mises en place pour éviter qu'il y ait des bâtiments vides, je pense notamment à Bruxelles. Donc si oui, éventuellement, quelles mesures? Est-ce que si on a aussi des idées si la mesure est effectivement efficace ou pas?
Moi, je peux t'en parler, mais tu me laisses combien de temps pour pas que ce soit trop long?
Ah bah, ça, lance-toi parle. Et okay, au pire, je te dis, tais-toi, quoi.
Mais la première chose, voilà, c'est que normalement, on ne peut pas laisser un bien à l'abandon. Donc la première mesure, ça, c'est la région, parce que le logement est une politique principalement régionale. Il y a quelques petits trucs qui sont restés, le logement est quand même régional. Donc il y a une amende. Donc quand un bien est vide pendant plus de 12 mois, il y a une amende. Et l'amende diffère de la taxe, parce que l'amende, c'est quelque chose qui est par rapport quand vous faites une faute. Alors que la taxe, c'est juste le coût de quelque chose que vous imputez à l'État. Et les communes, elles, mettent des taxes en plus, ou alors en complément de l'amende. Voilà, c'est un peu compliqué en termes d'articulation. Donc ça, c'est la première mesure, amende et éventuellement donc taxe par la commune. La deuxième mesure, il y a toute une série d'incitants à rénover ou à mettre à tarif social son bien en location, moyennant travaux, etc. Ça, c'est encore une mesure. Il y en a une qui est... alors ça, c'est un peu le gros bazooka, c'est il y a des prises en gestion publique, en fait. Donc, à partir du moment où le bien est vide pendant un certain temps, et moyennant toute une série d'actions qui sont déjà entreprises par rapport au propriétaire, on l'a mis à l'amende, on a fait ci, on lui a fait une mise en demeure, on lui a fait des propositions, etc. Donc, les opérateurs immobiliers publics, comme on appelle ça, ça peut être la région, les communes, les CPS, etc., ou d'autres opérateurs, peuvent intenter une action pour prendre en gestion. Donc, c'est je prends, je rénove, j'amortis le bien et alors je le remets au propriétaire après 27, 30, 40 ans, une fois que j'ai amorti moi les investissements que j'ai fait en tant que pouvoir public pour le faire.
Juste une question avant que tu continues. Tu as dit que le bâtiment doit être vide pour un temps.
Ouais.
Tu sais,
pour combien de temps? 12 mois. C'est pour éviter, en fait, parfois il y a des bâtiments qui sont vides, mais c'est le temps. En fait, ils ne sont pas occupables, il faut des travaux. Parfois, le propriétaire n'a pas forcément de mauvaise foi, mais il ne trouve pas non plus l'entrepreneur ou il n'a pas les fonds. Ou parfois, c'est un bâtiment qui a été fermé parce qu'il était insalubre. Et donc, on lui donne un délai pour faire des travaux. Et donc, l'inoccupation, en fait, ne devient sanctionnable qu'à partir de 12 mois.
Et donc, est-ce que toutes ces mesures donc, sont mises en place sont effectivement efficaces? T'as un avis ou des chiffres? Donc, on a su évaluer donc, ces mesures.
Je n'ai pas vérifié les chiffres, mais en fait, voilà, les amendes, il y a toute une série de choses. Hein. Donc, quand vous allez chez un propriétaire, vous lui mettez une amende, il peut dire qu'il avait demandé un permis, mais qu'il ne l'a pas eu. Donc, en fait, ça retarde les procédures. Idem pour la prise en gestion publique, idem pour les taxes, idem pour toute une série de choses. Alors, il y a une autre mesure, c'est carrément l'expropriation. C'est de dire, là, mais généralement, quand on exproprie, il faut une cause d'utilité publique, et là, on le paye, sauf que c'est un expert qui estime la valeur du bien, on le paye, on le reprend. Enfin, voilà, il y a toute une série de mesures. Après, effectivement, ces mesures, on ne peut pas dire qu'elles sont super efficaces, mais parfois, en fait, il y a toute une série de choses qui sont compliquées aussi pour les autorités à mettre en place. Enfin, par exemple, une prise en gestion publique, en fait, généralement, les autorités commencent la procédure, mais entre-temps, il y a des bâtons, des carottes par rapport au propriétaire, et en fait, on n'arrive pas jusque-là parce que finalement, il prend quand même une mesure, soit il rénove, soit il remet en location, etc. Donc, c'est vraiment l'aboutissement de tout ça. Mais effectivement, donc aujourd'hui, on estime qu'il y a autour de 20-25 000 logements vides à Bruxelles, ce qui est quand même énorme. Mais voilà, il faut se dire aussi que quand on voit le nombre de personnes qui postulent à un logement social, c'est pas ça non plus qui va répondre à toute la demande. Donc c'est important, et moralement aussi c'est important de se dire qu'on ne laisse pas des logements vides, mais c'est pas la seule réponse, en tout cas la réponse suffisante pour qu'on puisse apporter à tous les besoins en logement. Mais c'est pas super efficace non plus, quoi. Voilà.
Et juste une dernière petite question, vu que tu viens de parler du logement social, et on l'a entendu aussi dans les enregistrements, est-ce qu'on a donc des chiffres, une indication par rapport à combien de personnes ont bénéficié d'un logement social et combien ils sont en mesure d'en bénéficier? Pour évaluer donc si c'est un problème des logements sociaux ou si tout simplement la ville fait tout ce qu'il peut. Juste, on a tellement de personnes en situation de précarité et que donc le logement social ne devient tout simplement pas juste la solution à tout, quoi.
Alors, il y a environ 40 000 personnes logées dans un logement social actuellement à Bruxelles. Il y a environ 45 000, je pense, personnes qui sont encore en liste d'attente. Mais si on prend les revenus, on estime à environ la moitié des ménages à Bruxelles qui seraient dans les conditions d'accès au logement social. Donc aujourd'hui, le logement social en fait ne représente que, je pense, 7 ou 8% du parc total de logements. Donc c'est pas beaucoup. Voilà, la majeure partie des personnes qui sont dans les conditions d'accès au logement social, en fait, sont logées aujourd'hui dans le privé.
Ouais, ça donne une idée alors de voilà. Et Dominica ou Jack, vous voulez intervenir? Je pense que, je ne sais pas si vous voulez ajouter, donc on peut ajouter quelque chose par rapport au volet mesures mises en place par la ville, logement social, sinon on peut revenir sur les... sur le thème principal qui c'est les squats, si vous voulez donc répondre un peu à ce que vous avez entendu, si vous avez donc des avis contraires ou si vous êtes d'accord avec ce qui a été dit.
Sur la question des mesures, je crois que tu as à peu près tout dit. Enfin, du moins, j'ai rien à rajouter dans l'immédiat. Merci, même c'était éclairant. J'ai appris plein de choses en plus. C'est cool. Par rapport aux interventions dans le micro-trottoir, j'ai plein de choses à dire. Enfin, il y a plein de choses qui m'ont... Ça, c'est sûr. Donc, je peux me lancer. Et puis, encore une fois, hein, si c'est trop long, tu me dis stop. Mais,
vas-y, lance-toi.
Mais il y a plein de choses qui m'ont fait réagir où je me suis dit, pas mal. Enfin, finalement, en fait, ça m'a frappé que... Enfin, il y a plusieurs interventions... avant d'en arriver dans les clichés, les préjugés un peu bateaux, on va dire, de ce sont des lieux insalubres, c'est occupé par des personnes qui sont dangereuses, criminelles ou accros, addicts, des choses dures en fait, qui sont abîmées par la vie et qui du coup en arrivent à être comme des dangers pour la société. Enfin, il y a un truc de très, une définition très dangereuse en fait. Une appréhension du moins de la dangerosité du squat et des gens qui y vivent en fait. À la base, les gens, ils ont l'air de tous dire c'est des gens qui trouvent pas de logement, qui galèrent et du coup faut bien avoir un toit sur la tête. Donc finalement je me suis dit oui. Et effectivement je trouvais ça intéressant la première intervention, la notion du chez-soi. Le chez-soi, c'est quoi ? C'est être propriétaire d'un bien immobilier, du coup, c'est chez-soi ? Ou est-ce que c'est l'usage en faire son foyer, son domicile ? Et là, du coup, toi, tu as apporté une réponse aussi législative au regard de la loi, etc. Ce que c'est chez-soi, l'usage, etc. d'une propriété. Mais moi, en fait, ce que ça me raconte, c'est même des modèles de société en fait, qu'on veut mettre en place. Est-ce qu'on veut avoir des biens immobiliers pour y vivre, pour y créer des espaces de vie, de foyer, de partage ou pas d'ailleurs, mais un usage des biens immobiliers, ou est-ce qu'on préfère avoir des biens immobiliers pour capitaliser dessus en fait, au détriment de personnes qui auraient besoin de logement ou ce genre de choses, ou au détriment aussi de créer des espaces de commun, etc. Et du coup, en fait, à mon sens, juste dans cette petite phrase-là de s'inviter chez des gens, en fait, il y a déjà deux modèles sociaux en fait, qui s'affrontent, enfin, au niveau du logement, évidemment. Et je trouvais ça intéressant. J'ai une approche du squat qui est aussi le squat comme une expérimentation d'autres types d'habiter, en fait. D'habiter autrement les espaces et souvent de les habiter collectivement en fait, et du coup de recréer aussi des modèles de vivre ensemble ou de vivre les espaces différemment que chacun son appartement, sa clé, son adresse, sa petite boîte, et on croise de temps en temps nos voisins, mais des modèles plus autogestionnaires, des modèles de débrouille aussi, de do it yourself, parce que si on n'a pas les moyens pour se payer un logement, on a rarement les moyens de se payer un chauffagiste ou un plombier, donc on apprend nous-mêmes, et en fait cette notion-là, elle apparaît à aucun moment, les squats aussi comme terrain d'expérimentation, c'est juste des gens dans la galère qui vont squatter des bâtiments vides. Rapport à la propriété, ça peut varier selon les gens, mais c'est temporaire, c'est forcément temporaire, et c'est un tremplin vers soit du pire, soit du mieux, c'est-à-dire un retour en fait dans le parc locatif classique, un retour au logement locatif en fait. Et du coup, je me dis à aucun moment le squat il peut être perçu comme vraiment un terrain d'expérimentation aussi de vivre autrement et de nouveaux modèles. On n'invente rien, mais de modèles différents en fait de ce qu'est un logement en général. Et du coup, ça m'interpelle. D'un côté, ça m'étonne pas. Et d'un autre côté, je me dis, chouette, du coup, là, c'est le moment où on peut y aller, en fait. Et on peut dire aussi, le squat, évidemment, tout le monde ne choisit pas de vivre en squat. Et il y a plein de gens qui sont là de manière temporaire pour accéder à du locatif, etc. Hein, moi-même, je l'ai fait, finalement, dans mon parcours. Enfin, j'ai squatté et maintenant, je suis de nouveau en locatif. Mais par contre, les squats, ça m'a permis d'expérimenter plein de modèles de vivre ensemble, de créer ensemble, d'auto-gestionner des événements, des trucs assez fous. Et du coup, ça m'intéresse. Enfin, je trouve ça intéressant. Et j'ai pas entendu, malheureusement, parce que j'étais en train d'aller chercher mon carnet. Du coup, j'ai enlevé mon casque. J'ai pas entendu l'intégralité de la toute dernière intervention de la personne qui disait notamment en France. C'est d'autant plus facile, enfin c'est d'autant plus dur pour les propriétaires. Arrêtez-moi si c'est pas ça qu'il disait, mais il avait l'air de dire c'est d'autant plus difficile pour les propriétaires parce que une fois que son logement est squatté, c'est hyper dur de virer les occupants-occupantes. C'est ça qu'il disait.
Oui, il disait qu'à la limite il faut faire la loi soi-même.
Ouais, alors je sais pas qui est ce monsieur et je connais pas sa connaissance de la loi française, mais en l'occurrence, bon, actuellement il y a une loi qui est en train de passer en France, la loi Casabian, qui est l'équivalent de la loi anti-squat qui est passée en 2017 là en Belgique. Donc effectivement, jusque-là, le droit au logement supplantait le droit à la propriété dans le cadre notamment de squat, etc. Enfin, on était encore jusqu'à là, bah, ça va bouger là dans les prochains mois, on était encore le pays où le droit au logement supplantait le plus fortement le droit à la propriété. Ça va changer, le squat va être criminalisé et toutes les procédures d'expulsion, etc. vont être facilitées, enfin manu militari dans les 24 heures, les 48 heures, etc. Et en l'occurrence, en France, les procédures sont différentes. En Belgique, bien évidemment, c'est pas la même chose exactement, même si c'est cousin, on va dire. Mais en France, il y a la possibilité, alors la loi, la nouvelle loi va foutre un coup de pied là-dedans, mais en France, il y a la possibilité de légaliser son squat en passant au tribunal, en fait. On va au tribunal, on perd systématiquement le procès, hein, de toute façon, les occupants-occupantes. Mais du coup, on vit sur le délai d'expulsion, en fait, c'est ça. Et souvent, c'est... les quelques années où j'ai vécu, peut-être avant c'était plus long, mais ça s'est durci de toute façon. Hein. Moi, j'ai constaté en France, entre 2015 et 2020, le durcissement de la répression des squats, en fait, en général. Mais c'est rarement plus de 6 mois, en fait. Effectivement, j'ai vécu dans un squat une fois où on y est resté 1 an et demi. C'était assez extraordinaire, mais aussi parce qu'il y avait énormément de personnes, soit avec des enfants, soit malades. Enfin, c'était des réfugiés, des exilés, etc. Et du coup, il y avait 250 personnes. C'est difficile pour les localités de virer 250 personnes comme ça et de le justifier, notamment dans la presse. On avait un gros réseau d'associations de presse, etc. Donc, ils nous ont foutu la paix et puis au moins ils savaient où étaient les gens, quoi. Les gens n'étaient pas juste dans la rue. Du coup, voilà. Mais moi, j'ai rarement vécu plus de 6-8 mois dans un même lieu, en fait. Donc, du coup, dire c'est pas facile, les expulsions illégales en France, elles sont hyper courantes. La loi, elle est rarement du côté des squatteuses. Et là, en plus, avec la loi qui arrive, ça va faire des hécatombes. Ça a déjà commencé. Dès qu'on essaie d'ouvrir un squat pour loger des familles à la rue, il y a le RAID qui arrive et qui vire les gens en hélico et tout ça, dans certaines villes. Donc, du coup, j'ai été étonnée d'entendre ça. Je me suis dit, tiens, je me demande ce que c'est ces sources, parce que pour le coup, c'est pas la réalité du terrain que je connais en France, quoi. Mais voilà, c'est à peu près tout. Je vais m'arrêter là, parce qu'après...
Disons, ça, si jamais je le recroise de la rue et je me souviens de sa tête, je lui demanderai ses sources.
Ça va, tu l'envoies vers nous.
D'accord. Dominika, tu veux...
Oui, bien sûr. En fait, je suis pas vraiment étonnée ni choquée parfois une certaine image péjorative des squats. J'ai déjà rencontré, au quotidien. Et ça ne m'étonne pas. Enfin, je sais pas, peut-être moi-même, si je me baladais juste dans une autre bulle, j'aurais la même image, en fait. Et c'est ça, et c'est pour ça que c'est important, en fait, de connecter et de partager et d'en parler. Alors, il y a quelques... J'ai noté plein de trucs, mais je vais pas parler de tout, forcément. Il y a une phrase qui m'a sauté à l'oreille, du coup. C'est « profite ». Le monsieur a répété plusieurs fois « profite de, profite de ». Et du coup... je pense pas qu'on profite vraiment parce qu'on, enfin voilà, on essaie de créer plutôt. Oui, je pense que je mettrai plus l'accent sur. Alors pourquoi aussi ça m'étonne pas et pourquoi je pense tout à fait autrement et même parfois j'ai l'impression de vivre sur la Lune, parce que voilà, toutes ces, un peu ces perceptions péjoratives du squat, moi j'ai une expérience complètement différente, où peut-être j'ai d'autres besoins aussi, alors le fait que ça puisse paraître insalubre, ou que les conditions puissent un peu être un peu parfois difficiles, voilà, c'est pas quelque chose qui me dérange moi personnellement, parce que ce qui est important pour moi, c'est de partager un espace avec plein d'autres personnes qui ont des situations complètement différentes, qui ont des matrices complètement différentes. Et voilà, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas toujours perçu. Alors, nous, on fait pas mal de petits projets. On essaie de se connecter avec les gens qui sont autour de nous. Par différents projets et aussi cette notion de chez soi. Alors pour moi, le chez soi, c'est bien évidemment mon corps, c'est ma maison, mais il y a pas que ça, il y a mon environnement, donc il y a la rue, il y a tout ce qui m'entoure, et je pense qu'on a beaucoup cette manière de penser à chez soi, la petite superficie que je parle, c'est la mienne et tout. Et du coup, moi je vois ça complètement différemment. Et même, quand je marche dans la rue, je considère ça comme chez moi. Et du coup aussi, comme quelque chose interne à moi. Donc je respecte aussi. Enfin, c'est pas... Donc je pense qu'il y a parfois... Alors, bon, c'est un peu peut-être... Je veux dire quand même, c'est parfois un peu hypocrite quand... Voilà, je sors, je marche dans la rue et je vois plein de déchets sauvages et tout ça, des poubelles déchirées. Et c'est le respect de notre chez-soi à tous qui n'est pas présent. Et du coup, le fait que... cette image un peu de... Qu'est-ce que j'ai noté ? C'est pas spécifiquement pertinent. Je pense que je voulais peut-être un peu mettre l'accent sur notre expérience collective de partage d'une surface. Et toute une surface, en fait. C'est toute la ville, par exemple. Et pas juste, des murs ou des enceintes pas particulières.
Ce qui est intéressant aussi dans ce que tu dis, je pense, c'est aussi... Mais l'image que les gens se font, en fait, c'est parce qu'ils ne prennent peut-être pas la mesure de toute la diversité de types de squats, de besoins qu'il peut y avoir. En fait, on a l'image de personnes dans le besoin qui s'organisent, qui font des occupations temporaires, légales ou pas légales, notamment sans-abri, migrants, demandeurs d'asile, etc. Et où parfois, le besoin fait en sorte qu'il y ait une suroccupation et toute une série de problèmes qui peuvent en découler en termes de cohabitation, éventuellement de nuisance. Et puis, il y a des personnes qui ont envie d'inventer des modes d'habitation, donc qui utilisent... moi, en fait, j'aime même pas trop le mot de squat, mais bon, on s'appelle un peu comme on veut. Mais des personnes qui expérimentent des modes de vie en commun et qui sont peut-être aussi dans le besoin, mais peut-être un peu moins. Qui recherchent quelque chose, qui pourraient habiter ailleurs, mais qui font ce choix. Et puis il y a aussi le squat qui est plus culturel. En fait, la visée première, c'est pas d'habiter, c'est peut-être de se rencontrer, de faire des choses, et peut-être pas forcément de loger là. Et donc, je pense que dans l'imaginaire des gens, tout ça se confond. Mais ce qu'on a prioritairement, c'est 500 personnes sont entrées dans un grand bâtiment. Et en fait, c'est des situations super exceptionnelles et elles sont même visibles. Il y a presque rien de marginal là-dedans. En fait, ça se fait aux yeux et au-dessus de tout le monde parce qu'il n'y a pas d'autre solution. Alors que dans le monde professionnel des squats ou professionnalisé, en fait, c'est super discret, ils cherchent des petits trucs. Et justement, même par rapport à la loi, pour ne pas se faire expulser, il faut être super discret parce qu'après un certain temps, on arrive, entre guillemets, à négocier ou à rester dans le lieu. Et donc, je pense qu'il y a tout ça à clarifier aussi dans l'imaginaire des gens.
Et moi, j'ai juste une question parce qu'il y a un mot que vous avez utilisé plusieurs fois, à la fois un peu Jack, Dominica, mais aussi Memerdem, les mots tester, essayer, le fait de vivre, de faire les choses autrement. Et parce que donc, c'est quelque chose que j'ai entendu, bah, que je vois un peu en la clé dans nos squats. Donc, est-ce que vous pouvez un peu creuser et ça, creuser en fait ces pensées, donc dire aussi qu'est-ce que vous entendez par tester, essayer, donc quel type de, donc, des modes de vie qu'on peut créer dans ces milieux. Oui. Alors, et éventuellement, dans les cas d'ACLE aussi, je pense, je parle un peu à toi, Dominika, voir brièvement un peu l'expérience, Manu aussi, donc l'expérience que vous avez à l'ACLE, donc qu'est-ce que vous avez déjà créé.
Oui, alors, juste voulais revenir un peu sur ce que tu as dit. Oui, en fait, peu importe le type de squat, je pense toujours que on est tous chez soi. Enfin, voilà, et peu importe la manière. Enfin, c'est important pour moi qu'on ait un peu. Enfin, voilà, on est des humains qui partagent une surface, et peu importe en fait la distribution des humains sur les petits carrés. Quoi. Et du coup, oui, en ce qui concerne l'expérimentation, je dirais, pour moi, c'est une expérience super méga enrichissante, dans le sens où, oui, en fait, voilà, nous sommes des personnes complètement différentes, avec des matrices complètement différentes, et nous partageons un espace. Alors, c'est pas juste un espace, c'est aussi les ressources, c'est aussi le mode de vie, la dynamique, comment on fait pour faire ci, pour faire ça, comment on résout différentes, voilà, différents problèmes s'il y en a. Et ça, c'est comme si on était, j'ai l'impression, un peu dans un labo humain, parce que, alors je vais pas dire qu'on peut l'extrapoler à des échelles énormissimes, mais quand même, on peut voir les dynamiques interhumains, comment ils réagissent en groupe ou individuellement face à certaines choses. Et moi, personnellement, ça m'a quand même permis de comprendre pas mal voilà, les réactions humaines, la dynamique aussi, qu'est-ce qui met un groupe en action, qu'est-ce qui ne le met pas en action. Enfin, c'est... je rigole, mais oui.
Ce qui fait que des fois, il n'y a personne qui a fait. Bon, on attend.
On attend, c'est pas ce qui va se
on
passer.
Attend.
On attend. Et oui, enfin, pour moi, c'est surtout une expérience humaine.
Si je peux me permettre d'enchaîner. Moi, par exemple, en fait, un des trucs qui m'a porté en fait vers le fait de squat, enfin d'occuper, c'est par exemple de changer mon rapport temps argent, par exemple, parce qu'en fait le fait d'occuper, en fait, j'ai besoin de beaucoup moins d'argent en fait pour me loger, par exemple, et en fait cet argent, le temps en fait que je devrais mettre pour travailler, pour payer mon loyer, en fait, du coup, je vais pouvoir le mettre ailleurs. Donc, je vais pouvoir le mettre et dans la communauté, pour donner du temps à la communauté, parce qu'en fait, la communauté et la SBL, et l'entité de la SBL, donc la clé, elle a besoin aussi, en fait, d'énergie, elle a besoin de temps, mais aussi pouvoir, avoir plus de temps pour créer, pour pouvoir faire de la peinture, pour faire de la musique, pour organiser des événements dans l'espace public, comme on fait avec la clé. Et donc, tout ça, en fait, c'est ça, c'est aussi ça, c'est aussi un choix de se dire, voilà, en fait, moi, je paye pas de loyer. Alors, je paye une participation, ça, c'est vrai. Mais par contre, en fait, les 500 euros que je devais mettre dans mon loyer, en fait, je vais pouvoir me permettre de pas les gagner, et par contre, de prendre ce temps pour faire autre chose. Et ça, c'est important aussi. Et donc, ça va aussi avec le fait de faire de la récup. Donc, parce qu'avec la clé, on fait beaucoup de récup alimentaire, et donc, on essaye vraiment d'acheter le minimum. Moi, ça, par exemple, par rapport aux vêtements, moi, je sais que j'achète plus de vêtements neufs, par exemple, et je trouve mes vêtements ou je les achète en friperie. Et donc, voilà, c'est aussi vraiment un mode de vie. C'est vraiment changer, en fait, son mode de vie et sa façon de consommer, en fait, et de vivre sa consommation.
Ben, ouais, en fait, bon, il y a ta question, Mathéo, et... J'arrive, mais juste là, je vais rebondir parce que tu viens de dans tes termes, en fait, tu viens d'amener une notion hyper intéressante, enfin que je trouve hyper intéressante, c'est la notion du choix. Le fait d'occuper, c'est pas forcément confortable. Parce que c'est quand même précaire d'occuper, enfin, de fait c'est temporaire, les bâtiments ils sont pas toujours dingues, les flics, les proprios, le regard que la société porte sur nous, les gens qui squattent, enfin tout ça c'est, voilà, la notion du choix quand même elle se pose. Après effectivement je pense autour de la table, les personnes qui ont squatté ou qui squattent encore, il y a quand même un peu ce truc de nous on pourrait, tu vois, demain aller se trouver un travail 35 heures et pouvoir payer un logement locatif, enfin, probablement, en même temps, je sais pas, je vous connais probablement pas assez non plus pour dire ça, mais je sais pas, par exemple, c'est, je veux pas être dans la condamnation ou dire mais non, n'importe quoi, etc. Mais je me disais, je sais pas, je pense au collectif de sans-papiers là sur Bruxelles qui se sont fait expulser, je sais plus quoi. 18 fois en quelques mois, enfin un truc monstrueux. Et du coup, de constater aussi qu'on n'est pas tous toutes logés à la même enseigne dans les squats aussi, enfin même au sein même du parc du squat. Voilà, je trouve ça chouette, on parle de parc de locatif, bah voilà, parlons du parc du squat. En fait, même à l'intérieur même du parc du squat, il y a plein de différents niveaux de privilèges ou non-privilèges, en fait. Enfin, on reproduit aussi, il y a de la reproduction, en fait, du modèle oppressif et exclusif du logement, même au sein du parc du squat. Mais bon, bref, du coup, je trouvais ça intéressant, cette notion du choix, de aussi choisir d'occuper pour se dégager du temps, parce qu'on a besoin de moins d'argent. Moi, je l'ai vachement senti quand j'occupais moi-même. Enfin, genre, j'ai occupé pour ça aussi. Parce que j'avais pas les capacités psychologiques de bosser pour pouvoir me payer un loyer, en fait, juste ça. Et du coup, je suis d'accord avec toi.
Et y a, enfin, juste parce que je trouve que c'est intéressant. Par exemple, je sais qu'à la Comuna, par exemple, on avait des personnes qui étaient sans papier. Et donc, des personnes qui, en fait, avaient beaucoup de mal à travailler. Mais par contre, ces personnes, à défaut d'avoir de l'argent, par contre, elles avaient du temps à donner. Et donc, on avait un espèce de quota comme ça, temps-argent, qui en fait était et qui était plutôt intéressant, je trouve, c'est qu'en fait tout le monde en fait a quelque chose à apporter, voilà, que ce soit du temps ou de l'argent, en fait tout le monde a quelque chose à apporter.
Et je me permets en fait de vous interrompre parce que la discussion c'est très intéressant, mais malheureusement on doit bientôt clôturer. Et c'est juste qu'en vous écoutant, c'est un concept économique qui m'est venu beaucoup en tête, que c'est donc le concept des externalités. Et si vous ne les connaissez pas, je vous conseille de l'explorer un peu. Donc tout simplement, c'est un concept qui dit que chaque action engendre aussi des conséquences, des externalités qui soient à la fois positives ou négatives pour la société. Et dans les coûts, donc il n'est pas repris dans les coûts matériels des choses, mais c'est de la société donc, qui paye ces coûts qui, externes, qui donc, n'est pas repris en compte par les prix matériels. Et c'est quelque chose qui m'est en fait en tête un peu, en parlant maintenant des squats. Donc l'effet que vous... Les personnes qui sont dans des occupations, des squats, les faits qui ne payent pas de loyer. Donc, en fait, leur coût de vie pour le logement est moindre. Par contre, tout cela engendre aussi des conséquences positives dans ces cas-ci pour la société. Donc, je pense qu'on devrait un peu sortir du discours purement économique. Malgré ce que j'ai l'impression qu'on est dans une société capitaliste où finalement l'argent prend de plus en plus de place, on devrait commencer à regarder les choses d'un point de vue différent. Et voir donc toutes les conséquences sociales et culturelles que nos actions ont.
La différence entre travail et emploi.
Voilà, pour exemple. Et bah, je vous remercie beaucoup pour le temps que vous avez pris. Et je vous donne rendez-vous dans les prochains mois, parce que sûrement on va vous réentendre. Bah, déjà, Jack, on va se revoir les mois prochains. On va donner un peu des concepts sur qu'est-ce que c'est des squats, on va voir un peu. Et je vous remercie Manu, Erdem et Dominika. Et dans ces cas-ci, sûrement, vous allez vous réentendre la voix de Manu et Dominika, j'espère. Si on fera un petit épisode plutôt sur des squats dites par les académistes contre-culturels. Donc voir en fait comment c'est le milieu du squat amène aussi à la construction.
Épisode 2, explication.
Épisode 2, explication.
Et donc, suivez voilà. Bien.
Bah oui, maintenant il faut suivre, c'est une série, quoi. Il faut suivre du but à la fin.
Et est-ce que je peux prendre 2 minutes?
Et
allez, 1 minute.
T'as vraiment 10 secondes, littéralement. Je peux l'étendre.
C'est un texte qui parle de comment est-ce qu'on peut se retrouver en fait à la rue et en squat.
Alors, je te conseille, parce que vraiment, je dois clôturer, mais garde les textes, on peut l'ajouter dans les prochains épisodes, comme ça.
Ok, ça marche. Très bien.
Bah, je vous donne rendez-vous donc dans un mois, et bonne soirée à tous.
Merci.
Et à toutes.
Merci.
Salut.
Au revoir tout le monde.
Salut.